Alors, en 2017, lors d'un séjour dans la région de Cortona et d'Arezzo, en Toscane, à la limite de l'Ombrie, j'ai découvert par hasard, dans plusieurs guides touristiques, l'indication d'un artiste berrichon, peintre et vitrailliste, Guillaume de Marcilla. Alors, comme c'est un berrichon, ça m'a titillé un petit peu. J'ai tout de suite envoyé un SMS à Orléans à un voisin berrichon en lui demandant « ça te dit quelque chose ?» Et ça ne lui disait rien non plus, pourtant un bas berrichon devrait savoir. Et en fait, on a commencé à faire le jeu de piste ensemble. Alors, piqué par la curiosité, j'ai voulu aller voir plus loin et découvrir les œuvres de cet artiste, bien connu des Italiens dans la région, mais inconnu à La Châtre, dans le Berry et en région Centre-Val-de-Loire. Nul n'est prophète en son pays. Néanmoins, à La Châtre, depuis quelques années maintenant, il y a une rue Guillaume de Marcilla. Voilà. C'est donc à partir de notes et photos personnelles, d'une documentation importante de textes et d'iconographie. Je me suis notamment servi parce qu'il y a eu une campagne de restauration des vitraux à Arezzo très importante, des archives, des restaurateurs. Donc je m'appuie pour la description des vitraux beaucoup sur ces textes qui étaient en italien. Alors, j'ai beau faire de l'italien, mais je vais voir Google Traduction pour aller plus vite. Excuse-moi. Voilà. Je vous propose cet exposé dans le cadre de la programmation 2019-2020 des conférences de la Corfi. Je l'intitulerai modestement « Exposé ». Alors, je commence par l'illustration d'un vitrail de Honorius III, qui était un pape, et de saint François d'Assise, et qui s'intitule « Le pape Honorius III approuve l'indulgence de saint François d'Assise ». Alors, si le pape, à ce moment-là, approuvait l'indulgence, ben aujourd'hui, je demande votre indulgence, si ce n'est pas toujours très bon. Alors, ce qui est intéressant sur cette gravure qu'on reverra tout à l'heure, en bas à droite, sous le siège du cardinal, il y a un blason, et c'est le blason du Berry. Voilà. Alors, Guillaume de Marcilla, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Un de ses contemporains, qui fut aussi un de ses élèves, qui s'appelle Giorgio Vasari, a écrit une compilation sur les différents artistes de l'Italie dans un bouquin qui s'appelle « Les vies et les vités ». Alors, c'est la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. C'est un ouvrage qui a été écrit au milieu du XVIe siècle par ce dénommé Vasari, qui a été élève de Guillaume de Marcilla. Et cette compilation, j'ai pu, avec Claude, faire une copie qui n'est pas terrible, mais du visage de Guillaume de Marcilla, qu'on va retrouver à un moment dans une des rares peintures qu'il a fait et qui ressemble fortement à cette description. Alors, l'ouvrage « Les vités » de Vasari est consacré à plus de 200 artistes, peintres, sculpteurs et architectes de la fin du XIIIe siècle à l'époque de Vasari, en 1550, et il y a beaucoup de Florentins. Alors, il est, par les historiens de l'art, relativement connu. Il est considéré comme un, en Italie et sur l'ensemble de cette région, comme un des ouvrages fondateurs de l'histoire de l'art. Alors, on sait peu de choses sur la vie de Guillaume de Marcilla avant 1515. On connaît plus de détails après cette date, car en plus de la description de Vasari, qui fut son élève, on dispose de deux registres de contes qui proviennent du monastère de Camaldoli et qui sont conservés dans les archives d'État de Florence et l'autre dans la bibliothèque communale d'Arezzo. Et c'est d'ailleurs une des bases sur lesquelles je me suis appuyé pour travailler sur la description des vitraux. Alors, ces documents, ces registres, énumère les comptes de l'artiste de 1515 à 1529, année de sa mort, et permettent de préciser la chronologie des œuvres. Dans ma présentation, puisqu'il y a une alternance entre les vitraux, les fresques et quelques peintures, j'ai délibérément choisi de scinder les deux aspects. Donc on verra d'abord les aspects vitraux, puis fresques. Les premières années de la France à Rome. Alors, la vie de Guillaume de Marcilla, peintre verrier, né en 1473, mort selon les informations soit en 1529 ou en 1537, reste entachée de mystère. L'hypothèse la plus probable retenue aujourd'hui est celle d'un créateur berrichon. Quelquefois, on trouve un dénommé Guillaume de Marseille, qui est une interprétation. Sa famille était bien connue dans le Bas-Berry. Son père, Pierre, figure parmi les 80 bourgeois de la Châtre, signataire en 1462 d'une charte de la ville avec le seigneur de Châteauroux. Pour la période antérieure à 1515, le récit de Vasari apporte un certain nombre de précisions. L'un de ses oncles est chanoine à Bourges, donc la Châtre-Bourges, c'est pas très très loin. Après son apprentissage de verrier à Bourges, Guillaume de Marcillat quitte le Berry pour Nevers, pour travailler auprès de celui qui sera son professeur, Maître Claude. Voilà. Pour éviter d'être arrêté à la suite d'une rixe ayant abouti à un meurtre, il entre chez les Dominicains. Et de Nevers, quelques années plus tard, on le retrouve à Rome. Les débuts à Rome. Marcillat arrive en Italie au début des années 1500 avec Maître Claude. Celui-ci a été contacté par Bramante de la part du pape Jules II, car le pontife, qui avait vu à Rome quelques exemplaires de vitraux français, en veut de semblables pour décorer les fenêtres des appartements du Vatican. La technique française du vitrail est alors plus raffinée et plus évoluée que celle des Italiens. En 1509, le pape Jules II le relève de ses vœux de moine dominicain et l'autorise à choisir entre l'habit de Saint-Dominique et celui des chanoines réguliers de Saint-Augustin. En 1510, il reçoit en prébende le prieuré de Saint-Thiébaut dans le diocèse de Verdun. Cette prébende lui vaut le surnom de Priorino, petit prieur, peut-être à cause de sa petite taille, ou de prieur français. Un point important pour le resituer dans le contexte de l'époque, il travaille aussi avec Michel-Ange et Raphaël. Et on va voir l'influence que ces deux personnes ont eue sur l'œuvre de Marcillat. Il participe à la décoration des loges du Vatican, en décorant notamment une somptueuse galerie de scènes de la Bible. Les vitraux exécutés avec Maître Claude pour les appartements du Vatican ont été détruits, selon Vasari, pendant le sac de Rome en 1527. On ne connaît pas comment ils étaient installés ni leur disposition dans les salles. Claude meurt peu après son arrivée en Italie. Marcillat reste seul et il travaille dans diverses églises de Rome. D'autres villes font appel à ses services, Florence, Pérouse et à nouveau Rome. En 1517, il est demandé pour la décoration d'une partie de Santa Maria del Popolo, influencé par Bramante, architecte et peintre de Milan, concepteur de la chapelle Saint-Nazaire majeur. Il est très attaché à la composition harmonieuse, à la perspective, c'est un élément qui apparaît progressivement dans les tableaux du Quattrocento, aux anatomies, à la qualité des coloris, à la finesse des visages, des physionomies et aux effets de drapé. Et on va le voir régulièrement au fur et à mesure des vues qu'on va voir ensemble. Il acquiert progressivement une certaine habileté dans la gravure de verre plaqué. Il tient toujours à s'informer des dernières innovations et contribue à diffuser la culture romaine dans tout le pays, bien qu'ayant toujours fait venir ses verres, à cette époque-là, exclusivement de France. Il n'abandonne en rien son caractère français, dans son goût des costumes populaires et l'allure générale des personnages. J'ai été un petit peu long, on va passer. Alors, le premier vitrail qu'il a réalisé en collaboration avec Maître Claude, c'est l'histoire de Sainte-Marie. Alors, ce vitrail a été exécuté pour Jules II, et toujours avec Maître Claude, selon Vasari. Il exécute deux vitraux pour le cœur de l'église Sainte-Marie du Peuple, en 1509. Ces vitraux sont toujours en place, mais ils ont été très 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 restaurés. Alors, les deux vitraux qu'on va voir, ils représentent des épisodes de la vie de Marie et de Jésus, et ils sont surmontés du blason pontifical en haut. Là. L'arrière-plan, avec des architectures au goût de Bramante et la clarté de l'espace, montre l'adaptation de Marcillat au langage de la Renaissance. Alors, on peut identifier quelques scènes dans l'histoire, notamment en haut à gauche, là je ne le vois pas très bien, mais ça doit être l'Annonciation avec l'ange Gabriel. Je ne fais pas d'erreur, non ? Oh pardon, il est là, oui, il est au milieu. Il y a donc l'annonce, l'Annonciation, la Visitation Elle doit être en haut à gauche, merci. Hein, où Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, mère de Jean-Baptiste, et lui exprime sa joie. Je sais pas. On va pas se formaliser trop. Hein, c'est pas... Alors, la présentation au temple et la disparition de Jésus à l'âge de 12 ans lors de la montée au temple de Jérusalem. Ce sont des diapos que j'ai pris sur Internet. Alors, le deuxième vitrail qui est toujours conservé, c'est l'histoire de l'enfant Jésus. Alors, on y voit notamment la nativité, la fuite en Égypte en bas, hein, et les rois mages qui doivent être au centre. Toujours est-il qu'au dire de Vasari, dans son texte, Lévité, Maître Claude meurt à Rome peu après l'exécution de cette œuvre pour avoir trop mangé, ce qui est funeste dans le climat de Rome. Marsilla continue seul. On se croirait presque en Sicile. Cortone. De Rome, il part à Cortona en 1515 au service du cardinal Pazzerini et il fait des interventions décoratives dans son palais. D'après des factures retrouvées, il exécute alors 44 vitraux, dont 8 sont des figures avec des personnifications de la vertu, et les autres, ce sont soit les blasons papaux ou simplement des fenêtres blanches. Et sur la façade du bâtiment, il crée une fresque représentant les fondateurs de Cortone, accompagnée du blason pontifical. Quand on était à Cortone, je ne l'ai pas vu, hein, je ne me souviens pas. Alors, dans ces années, Marsilla reçoit de nombreuses commandes, surtout de vitraux pour des églises et couvents, à Cortone et aux alentours. Au début de 1516, deux vitraux lui sont commandés pour la cathédrale de Cortone. Alors, ici, c'est une vue ancienne à peu près de cette époque qu'on a retrouvée, merci Claude, sur Cortona. Et on va donc voir ces deux vitraux qui étaient destinés au dôme de Cortone. Alors, ces deux vitraux ne sont plus en Italie. Donc là, je ne suis pas allé à Détroit ni à Londres. Hein, mais on a un certain nombre d'indications. Donc, voilà. Hein, donc, la nativité du Christ. Donc, ce premier vitrail est maintenant à Détroit. Et ce second vitrail, l'adoration des mages, est à Londres. Ce thème a été repris par d'autres contemporains, et je les rappellerai tout à l'heure dans la suite de l'exposé. Dans les années 1516, il réalise, à cette époque-là, des vitraux pour l'église Sainte-Marie-des-Grâces à Calcinaio, près de Cortona. Alors là, on a une vue de la ville de Cortona sur cette église, dont le dôme ressemble au style de Brunelleschi qui sera présenté prochainement, hein, à Florence notamment. Alors là, c'est également une vue de Cortona où sur la droite, on voit cette fameuse église qui contient un magnifique vitrail. Il n'y avait personne quand on l'a visité et cette église n'est pratiquement plus entretenue. Alors voilà le fameux vitrail. Hein, qui a été restauré sans doute, mais qui est très très coloré, hein, et qui est situé en façade dans un vitrail sur l'œil, l'oculus. Hein, il montre la Madone de Miséricorde. Alors, trois subsistent aujourd'hui et sont authentifiés. Il y en a qu'un que j'ai pu prendre en photo, c'est celui-là. Hein, il décore la rosace de la façade. L'image est basée sur la Sainte Vierge des Grâces, qui accueille sous son manteau de nombreux fidèles, parmi lesquels on peut identifier, grâce à son chapeau, le pape Léon X, l'empereur Maximilien d'Autriche et l'évêque de Cortona, qui doit être à gauche. Le blason qui y figure est celui de la famille Ridolfini de Cortone, qui commanda l'œuvre. Il y a deux autres vitraux, mais que je n'ai pas vus au moment où je l'avais visité, qui étaient Saint-Paul et Saint-Sébastien. Et il part à Arezzo. Alors cette vue d'Arezzo est une vue de Piero della Francesca et qui a un style qui est relativement moderne dans sa représentation. Et ça date du XVIe siècle en fait. Alors, pour rappeler un petit peu, Arezzo est en Toscane, c'est proche de l'Ombrie, C'est au sud-est de Florence, presque à hauteur de Sienne à peu près, hein, c'est pour le situer un petit peu. La ville est aussi connue de façon beaucoup plus contemporaine, parce que c'est là où a été tourné un film qui s'appelle « La vie est belle » de Roberto Benigni. Et puis, accessoirement, je leur fais un peu de publicité, hein, il y a des séjours linguistiques organisés par la Dante avec Arezzo. Et je me promets bien d'y aller. Voilà. Ce sont les premiers vitraux de Guillaume de Marsilla dans une église qui n'est pas la cathédrale principale, mais c'est le premier vitrail qui a été réalisé pour le Duomo. Suivront le vitrail Oculus de la Pentecôte et les vitraux. Alors, Sainte-Lucie, que j'ai agrandi complètement à droite. J'ai essayé de faire des agrandissements des fois, c'est pas très très heureux, mais ça permet d'avoir une lecture du vitrail. Alors, Sainte-Lucie, pour les gens du voyage, alors j'ai été surpris par l'expression que me disait Claude l'autre fois, parce que je dis les gens du voyage, hein, c'est le voyage en Sicile orientale en mai dernier. Hein. Alors, Lucie, qui est un dérivé de Lux la Lumière, est particulièrement vénérée à Syracuse, où elle est née. Oui, moi je confondais souvent Sainte-Lucie avec Sainte-Agathe, parce qu'on s'était arrêté dans une pâtisserie où il y avait les tétons de Sainte-Agathe, c'était autre chose. Mais... Donc je me rappelle un petit peu tout ça. Hein? Alors, Sainte-Lucie, c'est la sainte patronne des aveugles, des ophtalmos et des électriciens. Vous ferez le lien. Elle est souvent représentée portant ses yeux sur un plateau. Et si vous vous rappelez, dans une visite qu'on a fait à Syracuse, on a vu un tableau, hein, de Sainte-Lucie portant ses yeux sur un plateau. Voilà, à côté d'elle, c'est Saint-Sylvestre, qui est un pape du début du IVe siècle. Alors, le vitrail, il y a peu de paysages. Il y a des éléments architecturaux anciens, sculptés, des sculptures avec des niches, arc et colonne, des expressions calmes et figées des personnages. À droite, quand on regarde à droite, en bas du détail, deux petits anges soutiennent les armoiries de l'ancienne et puissante famille d'Arezzo, les Albergotti. Alors, cette famille était un partisan irréductible de la faction des Guelfes, qui étaient des partisans du pape, opposés aux Gibelins. Ces deux factions, au XIIe et XIIIe siècle, soutenaient respectivement deux dynasties qui se disputaient le trône du Saint-Empire. Les vitraux de Guillaume de Marsilla dans l'église de la Très-Sainte Annonciation. Alors là, c'est une vue générale de cette église qui contient quelques vitraux qui ont été réalisés par Guillaume de Marsilla avant de réaliser son chef-d'œuvre dans le dôme de la cathédrale d'Arezzo, qui de temps en temps est appelée la chapelle Sixtine d'Arezzo, parce qu'il y a des décorations, des fresques qui ressemblent beaucoup et qui sont très copiées de Michel-Ange. On le reverra tout à l'heure. Alors, Arezzo, l'église de la Très Sainte Annonciation. Alors, pendant que Marsilla attend les premières fenêtres à Meneaux pour la cathédrale, il exécute dans cette église une série de vitraux. Le premier vitrail, c'est Saint Jérôme. Il se trouve dans l'église de la Sainte Annonciation. Alors, Saint Jérôme, je suis allé gratter un petit peu sur Internet, parce que je ne suis pas spécialiste, hein. C'est un moine, traducteur de la Bible et docteur de l'église. Il est souvent représenté comme ici, avec un lion blessé par une épine dans la patte, et il est guéri par Jérôme. Alors le vitrail, le saint est vêtu d'une tunique rouge et est pris dans un moment de méditation spirituelle inspirée. On note la tension musculaire du corps et l'expression intense du visage. Repérez le cadre classique qui a une frise d'ove autour, je pense qu'on les voit un petit peu, on n'est pas à la maison des ovres, on n'en est pas loin. Une donc frise d'ove et de lanières menées en monochrome, en grisaille et en jaune argenté. Alors la grisaille, c'est une technique, il y a quelqu'un qui est spécialiste des vitraux qui complétera, parce que je ne rentrerai pas dans le détail de la fabrication des vitraux, je n'ai pas encore appris. Voilà. C'est semblable à celle qu'on retrouve de façon récurrente chez Marsilla, et on va le voir dans des vitraux tout à l'heure, la vocation de Saint Matthieu, ou l'œil de l'église de Saint François. Ça semble être un prélude aux bordures antiques plus élaborées des panneaux de l'Annonciation. Le deuxième vitrail est le mariage de la Vierge. Alors, le thème du mariage de la Vierge a été représenté un peu avant par un peintre contemporain, le Pérugin, en 1500, et puis par son élève Raphaël. Donc, ce sont des éléments qui baignent complètement cette époque-là. Alors, dans l'Évangile de Luc, puis dans la Légende dorée, alors, la Légende dorée, ça semble être un ouvrage de compilation du XIIIe siècle sur la vie des saints. Alors, selon l'Évangile de Luc et cette légende dorée, les Juifs avaient fait appel à Dieu pour choisir l'époux de Marie. Dieu, parmi les prétendants, l'élu serait celui qui verrait fleurir la baguette de bois dont il avait été prié de se munir. Alors, on arrive, on le devine, c'est dans le bras gauche de Joseph, qui ressemble un peu à Jésus, là, mais la représentation habituelle, et son rameau est fleuri. Alors c'est Jésus qui est désigné comme le futur époux de Marie. On le voit là, pas très très bien, mais bon. La scène se déroule à l'intérieur du temple. Le grand prêtre Zacharie préside à la cérémonie et il est situé au centre de la scène. À gauche, Joseph passe l'anneau au doigt de Marie. À droite, on voit Marie. Et derrière Joseph, un groupe d'hommes plus jeunes est témoin de la scène. Il pourrait s'agir d'autres prétendants de Marie, évincés parce que leur rameau n'a pas fleuri, contrairement à celui de Joseph, ainsi désigné par Dieu pour épouser la Vierge. On voit le fameux rameau dans la main gauche, alors qu'un prétendant à gauche brise le sien par dépit. On le voit complètement gauche, là, avec son genou. Et qu'un autre, derrière Joseph, lève le poing pour le frapper. C'est pas toujours très très net, mais enfin on arrive à dire. Et derrière Marie, un groupe de femmes assiste également à la cérémonie. Il pourrait s'agir notamment des vierges consacrées au temple de Jérusalem qui ont été élevées avec Marie. Alors, le vitrail est très construit, c'est une œuvre symétrique. D'un côté, les hommes, de l'autre côté, les femmes. L'axe central, passant au centre du bâtiment, passe par la pointe du chapeau de Zacharie, son nez, sa barbe, sa ceinture et entre l'écartement de ses pieds. Alors, ce qui apparaît dans les vitraux de Marcilla, c'est la représentation, pour les premières fois, de marbre simulé. Différentes qualités de vitraux, et ce sont des motifs que l'on retrouve souvent. On voit apparaître une niche en perspective, donc des éléments nouveaux dans la peinture et dans les vitraux, et qui donnent du mouvement et de la luminosité. J'ai été obligé de piocher dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc je deviens balèze. Alors, cet autre vitrail, l'Assomption de la Vierge. Alors, le sujet est une croyance religieuse, notamment catholique, dans laquelle la Vierge Marie, Mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est montée directement au ciel. Alors, le vitrail, c'est une rare œuvre de Marcilla qui présente un cadre paysager. Alors, des fonds de couleur douce au premier plan, des fonds plus sombres et plus variés vers l'horizon, comme pour suggérer une certaine perspective et une vision aérienne de l'espace. La scène représentée revêt un caractère monumental. Dans la partie inférieure, les apôtres ont des expressions dignes de Michel-Ange. Pose vissée, la ligne est construite et dynamique, les anatomies sont très marquées. Et pourtant, en même temps, les mêmes personnages semblent développer un parcours émotionnel. Je lis le texte là, qui à travers les gestes, expressions, exprime la participation personnelle et individuelle à l'événement. Ferme les guillemets. Comme d'habitude, une gamme de couleurs très profonde et brillante, basée sur des contrastes plutôt que sur des accords. Elle joue principalement sur les rouges, les violets, les bleus, les jaunes et les verts. Bien qu'on relève aussi des présences d'effets pour simuler les tissus damassés ou fantaisistes. Alors, le maître présente la Vierge assise, frontale, entourée d'anges, disposés symétriquement, selon une iconographie qui est de tradition au XVe siècle. Le sentiment d'isolement de la Vierge est confirmé par une conception particulière des plombs qui entourent la plaque de verre, qui tendent à enfermer le personnage principal dans une sorte de médaillon que l'on pourrait considérer comme une sorte de mandorla d'amande rouge et rayonnée. Alors, dans le baptême du Christ, le Marcilla avait utilisé du verre plaqué et gravé de rouge pour signer la gloire de l'Éternel. Le vitrail suivant, c'est toujours dans cette fameuse église, le pape Honoré III et saint François. Alors Honoré III était pape de 1216 à 1227. C'est lui qui lance la cinquième croisade. La cinquième croisade, c'était une campagne militaire dont le but était d'envahir et de conquérir une partie de l'Égypte afin de pouvoir échanger les territoires conquis contre les anciens territoires du royaume de Jérusalem. Il soutient la croisade des Albigeois et il est contemporain de saint François d'Assise. Alors ce vitrail de la Rosace, pour la façade de saint François, représente le pape qui approuve l'indulgence de saint François d'Assise. Saint François offre à Honorius, en plein mois de janvier, des roses sur lesquelles il s'est jeté pour vaincre les tentations. Selon la légende, le pape accorde au futur saint, en 1216, une indulgence plénière. C'est le point de départ fondateur de l'ordre des frères mineurs, caractérisé par un engagement dans la vie religieuse monastique, par la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la création divine. Alors, ce vitrail donne un certain nombre d'indications architecturales. On voit notamment un plafond avec des rosettes, une perspective, des matériaux, des marbres restitués de manière mimétique. Et ce qui est particulier, c'est un des cardinaux qui est assis sur un tabouret sur lequel figure le blason du Berry. Et c'est là qu'on reboucle par rapport, et c'est la seule fois qu'on a cette identification. Alors, on a fait cette parenthèse autour de l'église, et maintenant on arrive au monument essentiel où il y a les œuvres de Marsilla, fresques et vitraux, et qui est la cathédrale San Donato, le Duomo. Alors, la construction de cette cathédrale commence en 1278. Elle s'achève en 1511. Elle abrite les reliques de Saint-Denis, qui antérieurement était dans une église dans un point moins élevé. Or, on construit toujours les cathédrales au point le plus élevé de la cité. Alors, pour l'anecdote, en remplacement de la précédente façade du 15e restée inachevée, une nouvelle façade est édifiée entre 1901 et 1914. Et elle a été dessinée par un certain Dante Viviani. Ça ne s'invente pas. Voilà. Marsilla a réalisé 7 vitraux au cours des 2 premières décennies et en a réalisé la grande rosace en façade. Il a également peint à la fresque 3 des voûtes de la nef représentant des scènes de l'Ancien Testament. L'artiste a également réalisé plusieurs tableaux précieux, mais beaucoup ont disparu. En fin d'exposé, on verra 2 de ces tableaux. Alors, là, c'est à l'entrée au tympan de l'église où on voit justement cette rosace, cet oculus, qui est la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, on va la revoir plus en détail tout à l'heure, au milieu des fresques de l'Ancien Testament. Alors, voilà cette fameuse descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Pas facile à prendre en photo parce que l'éclairage n'était pas très très bon. Il illustre ici la descente du Saint-Esprit. Alors, c'est quand même un vitrail qui fait 3,50 m. L'œuvre, elle a été exécutée alors qu'il résidait encore à Cortona. C'est la deuxième œuvre réalisée pour la cathédrale d'Arezzo après un vitrail qu'on avait vu tout à l'heure, Sainte-Lucie et Saint-Sylvestre. Et avant le cycle de vitraux pour les 5 fenêtres qu'on verra tout à l'heure. Du point de vue du cadrage de la scène, cette œuvre présente un parti encore simplifié. On commence à assister à l'élimination progressive du paysage, tout d'abord visible dans le lointain, derrière l'architecture, ce qui semble annoncer la prédominance absolue de la structure architecturale et de la perspective qui apparaîtra dans les œuvres ultérieures. L'insertion de détails iconographiques tels que le geste de l'apôtre sur les genoux au premier plan qui porte la main au visage pour protéger les yeux pour ne pas être ébloui par la manifestation de la lumière et de la présence divine. Il est au premier plan avec le manteau rouge. Allez, la main dehors. On entre maintenant dans la partie les vitraux de Guillaume de Marsilla dans la cathédrale San Donato d'Arezzo. Le premier vitrail, c'est la vocation de saint Matthieu. Alors, Matthieu apparaît dans les évangiles où il est appelé soit Matthieu, soit Lévi. Il y est décrit comme un collecteur d'impôts que Jésus appelle pour devenir l'un de ses 12 apôtres. Ce qui est nouveau par rapport aux vitraux antérieurs, c'est l'utilisation de la perspective architecturale et l'utilisation de motifs antiques. La représentation des personnages fait penser aux œuvres de Michel-Ange et Raphaël. Si vous avez en tête quelques représentations de tableaux de ces personnes, j'en remontrerai tout à l'heure. On observe la brillance des couleurs, l'imitation des tissus, damassés ou brodés, la différente qualité des marbres et les tons clairs. Alors, les deux panneaux du bas, agrandis, donnent deux récits de la vie de Saint Matthieu. À gauche, Saint Matthieu ressuscite la fille du roi d'Éthiopie qui l'a converti au christianisme. À droite, le martyr de Saint Matthieu, frappé à mort par un garde pour s'être opposé à l'amour d'un usurpateur pour la fille du roi d'Éthiopie. Cet épisode sera repris quelques années plus tard dans un tableau du Caravage, le martyr de Saint Matthieu, en 1600. Parlant de la vocation de Saint Matthieu, Vasari écrit, c'est beau comme de l'antique, les effets de la perspective, les escaliers, les figures, le paysage, y sont rendus avec une telle perfection que l'on dirait que ce sont non point des vitraux, mais des merveilles tombées du ciel pour la consolation des hommes. Fermement. Le baptême de Jésus. Alors, le baptême de Jésus, c'est un sujet qui est très répandu dans l'art, notamment à cette période. Fra Angelico, Piero della Francesca, le Pérugin, Léonard de Vinci, le Titien. L'épisode du baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain est rapporté dans le Nouveau Testament. Le Jourdain a une signification particulière dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est l'une des limites de la terre promise aux Hébreux, menée par Moïse. Moïse n'ayant pas le droit d'entrer dans la terre promise, il ne peut pas franchir le Jourdain. L'immersion de Jésus dans le Jourdain a un lien avec le péché. Selon la théologie développée au sein du christianisme, le baptême de Jésus traduit la volonté de prendre en charge les péchés du monde. Le vitrail suivant, la résurrection de Lazare. Alors Lazare, le sujet lui-même, Lazare est un personnage de l'entourage de Jésus qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il est essentiellement connu par un récit de l'Évangile selon lequel Lazare, mort 4 jours avant et mis dans un sépulcre, serait sorti vivant de la tombe sur l'ordre de Jésus. Je vous lis le court passage de l'Évangile sur Saint Jean, vous ne direz pas Amen après. Alors, Jésus se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus et dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Jésus cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » D'après une légende qui suit cet épisode de la mort de Lazare, les Juifs l'auraient embarqué dans une barque vers la Provence en compagnie de ses sœurs Marthe et Marie de Béthanie ainsi que plusieurs autres personnes. Ces 5 témoins du Christ auraient accosté aux Saintes Marie de la Mer. Il partit de son côté évangéliser Marseille, dont il devient le premier évêque et le patron. Autre vitrail, Jésus chasse les marchands du temple. Alors, dans l'épisode d'un évangile, Jésus et ses disciples se rendent au temple de Jérusalem pour la Pâque. Il en chasse tous les marchands et leurs clients, renverse les comptoirs des changeurs d'argent et les chaises des marchands de pigeons, et il leur dit « On appellera ma maison une maison de prière ». Mais vous, vous en faites un repère de brigands. Alors, les personnages prennent vie avec de nombreuses références au modèle de Michel-Ange. On notera les effets de draperie, la recherche de détails précieux, comme le vêtement de l'homme en bas à gauche, ou la simulation de différents types de marbre, la combinaison de couleurs brillantes inhabituelles à l'époque pour l'Italie, un vert, violet, bleu, rouge. Autre vitrail, Jésus et la femme adultère. Alors, le sujet du vitrail, c'est un épisode évangélique de Saint Jean. Il montre une confrontation entre Jésus, les scribes et les pharisiens pour savoir si une femme coupable d'adultère doit être lapidée. Jésus empêche l'exécution et dénonce l'hypocrisie de ses contradicteurs. L'expression « jeter la première pierre » est tirée de ce passage évangélique. Moi, je pense aussi un petit texte de Brassens, je peux le citer, « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. » Lecture du vitrail. Il s'agit d'un vitrail en deux parties qui s'inspire beaucoup du style de Bramante. Les personnages sont inspirés aussi des modèles de Michel-Ange et Raphaël. La femme adultère est représentée avec une robe rouge dont l'effet velouté est un travail sur le vitrail. Alors, c'est l'effet moucheté. Et ça se retrouve donc sur son manteau. Et je pense, j'avais noté qu'on le voyait aussi sur l'habit d'un autre personnage. La coiffe du pharisien. Vous voyez, on ne le voit pas trop bien en bas. Alors, un autre vitrail qui, lui, n'est plus dans la cathédrale d'Arezzo, mais dans un petit village qui est San Savino. C'est une route du vin dans le Chianti. Je me rappelle parce que je suis allé chercher du vin par là. Alors, mais il s'agit, on s'était arrêté, ce village représente Saint-Augustin et les deux anges. Alors, c'est pas très très net, je suis désolé parce qu'on n'avait pas un fort éclairage, mais le vitrail de la Rosa, c'est d'un grand intérêt. Le saint y est représenté en tant qu'évêque et médecin de l'église. Il a la main droite levée et il montre un geste de bénédiction. De la main gauche, il tient un livre, symbole de sa vaste production théologique au service de l'église. Deux anges, un à droite et un à gauche, parviennent à donner vie à la scène entière avec leurs mouvements. L'un tient le bâton pastoral, tandis que l'autre offre un livre à Augustin. Augustin porte la mitre sur sa tête, son regard est serein, une épaisse barbe blanche recouvre tout son menton. Alors, beaucoup de liens avec le passé des œuvres de Guillaume de Marsillat subsistent dans ce vitrail. Par exemple, le choix de combinaison de couleurs basé sur le contraste bleu, rouge et violet, un traditionnel chez Marsillat. Saint Augustin semble posséder une grande dignité dans le mouvement. Cependant, des défauts dans la construction anatomique sont décelables. Un certain manque de précision dans la présence de certains détails plus ou moins finis. Dernier vitrail, le transport du Christ au sépulcre. Dans ses dernières années de vie, Guillaume de Marsillat reçoit diverses commandes à l'extérieur d'Arezzo, comme le vitrail pour l'Annonciation des Saints à Pérouse, qui est perdu, et ce vitrail pour la chapelle Caponi de l'église Sainte-Félicité de Florence. Ce dernier représente le transport du Christ au sépulcre et il est conservé à Florence. Cette œuvre a été réalisée pour Caponi, un marchand florentin avec qui Marsillat avait des rapports commerciaux depuis 1515 pour l'acquisition de verre. C'est le dernier vitrail connu de Guillaume de Marsillat. Alors, là, on a vu une série de vitraux de l'église, mais ce qui est frappant dans ce même duomo, c'est les fresques de Guillaume de Marsillat qui cohabitent avec tous ces vitraux dans la cathédrale San Donato d'Arezzo. Voilà l'ensemble. Alors, ce sont les trois premières travées, dont une est coupée, et puis après les deux autres, qui sont de Guillaume de Marsillat et qui sont des références à l'Ancien Testament. Un autre cadrage avec la rosace et l'assomption qu'on avait tout à l'heure. Et cette première travée, c'est la création Adam et Ève. Alors, quand vous regardez cette fresque, elle fait tout de suite penser à la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et comme ils sont contemporains, on voit très vite la copie de Marsillat sur Michel-Ange. Alors, cette deuxième photo, ça représente, alors là je ne sais pas, est-ce que c'est ou le paradis terrestre ? Je dirais plutôt l'arche de Noé, parce que on voit en double toute une série d'animaux. Mais là je ne sais pas si vous êtes... Alors c'est pas très très net, parce que j'ai agrandi des photos, là c'est vraiment pas évident, en plus les cervicales en prennent un coup à chaque fois qu'on essaie de prendre des photos.
Il a choisi
un
couple d'animaux, il a choisi.
Oui, oui, et je pense que c'est quelque chose sur le déluge, ou quelque chose comme ça, non? La deuxième travée, elle représente toujours ici de l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham. Et là, c'est l'histoire d'Abraham sous un autre angle. Et là, j'ai fait un grossissement, c'est Abraham et les trois visiteurs. La figure d'Abraham est devenue le modèle de l'hospitalité biblique. La Genèse raconte en effet comment Abraham, déjà très âgé, tout comme Sarah, sa femme, donne l'hospitalité à trois étrangers, en fait des émissaires de Dieu. Je cite « Le Seigneur apparut à Abraham, assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit « On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah, sa femme, dont les textes disent qu'elle avait déjà 90 ans, et il lui dit « Prends vite trois grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Après avoir goûté l'hospitalité d'Abraham, un des visiteurs exprima sa gratitude et lui demanda « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi dans un an et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Et ce fils, ce sera Isaac. Hein ?» Et Dieu, il testera jusqu'au bout la fidélité d'Abraham en lui demandant de sacrifier cet enfant Isaac qu'il a eu avec Sarah. C'est le fameux épisode du sacrifice d'Isaac. Et Dieu retient le bras d'Abraham avant qu'il ne tue Isaac. Toujours détail de cette deuxième travée, c'est l'échelle de Jacob. Avec mon amie Martine, on avait échangé il y a quelques temps à ce propos. Alors, l'échelle de Jacob, dit aussi le songe de Jacob, c'est un épisode biblique. Isaac a eu deux fils jumeaux, Ésaü, le fameux Ésaü, quand on fait des mots croisés, qui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et Jacob fait un rêve où il voit une échelle entre le ciel et la terre. C'est ainsi que Dieu se révèle à lui. Selon le récit biblique, que je cite encore, « Jacob arriva en ce lieu et y resta pour la nuit, car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sur sa tête et s'allongea pour dormir. Et il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. Et il vit Dieu qui se trouvait à ses côtés et qui lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac ton père. » La terre sur laquelle tu reposes, je la donnerai à toi et à tes descendants, et tes descendants seront comme la poussière de la terre, et ils s'établiront vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud, et par toi et tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est le fameux peuple béni de Dieu, le peuple juif. Alors là, j'ai eu une scène que je n'ai pas pu identifier, mais qui replace, c'est de tout autour de la voûte, un épisode de l'histoire d'Abraham. Ça sera l'occasion de qu'on poursuive la lecture de l'Ancien Testament à tête reposée. Alors, la troisième travée évoque l'exode des Juifs. Dans ce détail de la voûte, nous voyons les Égyptiens submergés par la mer Rouge. Et alors qu'ils pourchassent les Juifs qui fuient l'Égypte en quête d'une terre promise. Les textes racontent que la mer se retire, je pense toujours au film, la mer se retire dans le film de Cécile B. 2000. Autre détail de cette fresque dans la troisième travée, c'est Moïse et le serpent de bronze. Alors, ici on voit le moment où Moïse lève le serpent de bronze ou d'airain. Le peuple juif fuyant l'Égypte traverse à pied le désert pour atteindre la terre promise. Souvent découragé, le peuple se plaint, conteste et accuse son Dieu. Dieu demande de placer un serpent de bronze visible en haut d'une perche et il dit « Quiconque sera mordu et le regardera vivra la vie éternelle ». Cette morsure du serpent symbolise l'image du péché pour les hommes sur la terre. La mort en est la tragique conséquence et est inéluctable. Le serpent mis sur une perche est une image du Christ condamné sur la croix, portant en lui tous les péchés du monde. Alors ça, cet épisode est très connu au niveau des textes, et Moïse reçoit les tables de la loi. Alors, selon la Bible, Dieu remet à Moïse les tables de la loi. Ce sont des tables en pierre sur lesquelles il a gravé le décalogue, les fameux 10 commandements. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et se trouve dans le désert du Sinaï. Dieu décide de céder une alliance avec lui et Moïse, et qui en est l'intermédiaire. Il énonce les 10 commandements et les assorties de développement. Moïse écrit toutes les paroles prononcées par Dieu, mais celui-ci lui promet des tables de pierre rappelant la loi et le commandement que le peuple d'Israël devra garder dans un coffre, ce qu'on appelle la fameuse arche de l'Alliance. Ces instructions prennent 40 jours, à l'issue desquels Dieu donne à Moïse les tables de la loi. Voilà. Le dernier aspect, c'est Guillaume de Marcillat, peintre. On a, même s'il réalisait les cartons des vitraux, les supports de ses fresques, on a très peu de traces de tableaux peints par Guillaume de Marcillat. Or, les deux tableaux que je vais vous présenter. En arrivant à Rome pour décorer les appartements du pape à l'invitation de Bramante, il a sans doute vraisemblablement exécuté des œuvres, mais elles ont toutes disparu. Alors, le premier tableau que je vais vous présenter, c'est une scène de l'Annonciation. Alors, je suis désolé parce que c'était pas évident de prendre en photo ce tableau. Il y a un effet de parallaxe qu'on a essayé de corriger, mais ça donnait quelque chose d'assez étonnant pour le résultat voulu. Donc, on est resté avec ce tableau un peu déformé, mais on devine relativement bien sa représentation. Ce tableau, cette peinture, se trouve maintenant dans un musée de la Verna, qui n'est pas très loin d'Arezzo, mais qui est dans un couvent qui est toujours tenu par des moines. Le deuxième tableau, il est assez intéressant pour diverses raisons. Il s'appelle « La dispute des pères de l'Église sur l'Immaculée Conception ». Il est conservé, non pas en Italie, alors par quelle vicissitude, ça, on ne sait pas trop, mais il est conservé à Berlin et il a été restauré très récemment, ce qui explique sa qualité visuelle. On verra dans les détails comment il se présente. Alors, l'œuvre est un grand intérêt car c'est un rare témoignage de peinture au chevalet de Marcillat. Et aussi parce que le visage qui apparaît, et on le verra dans les détails d'Origène, je vais les préciser tout à l'heure, et en fait c'est l'autoportrait de Guillaume de Marcillat. Un gars chauve, je l'ai repréciser tout à l'heure, et on fera la comparaison avec la gravure du texte de Vasari. Il est au milieu, vous voyez, un peu en retrait entre Saint-Augustin et puis entre Saint-Augustin, enfin on verra. La dispute des pères de l'Église. Selon les pères de l'Église, Marie est née sans tache. Elle est exempte du péché originel. C'est un dogme qui a valu très tôt chez les pères de l'Église et puis qui, dans l'histoire de la chrétienté, notamment du catholicisme, a fortement marqué le catholicisme. Alors, à ne pas confondre l'Immaculée Conception, péché originel, et la conception virginale de Jésus. Marie est née sans Marie. Donc l'Immaculée Conception
est... Jésus
et Jésus. Voilà, on s'est compris. Alors, d'ailleurs, je crois qu'on a vu en Sicile une représentation qui a fait l'objet... Alors, il y a eu dispute des pères de l'Église à propos de ce dogme, mais une opposition entre les franciscains et les dominicains. Je crois qu'on avait vu une représentation de la Vierge qui était extérieure à l'Église, qui avait été faite par les dominicains. J'ai ce souvenir vague, peut-être quelqu'un se souvient-il quand on a fait notre voyage en Sicile. Alors, là je vais légender un peu tous les saints représentés. Ce sont des pères de l'Église qui sont tous des saints, sauf un qui s'appelle Origène, qui est aussi un des pères de l'Église. Mais ce fameux Origène, en fait, c'est le seul autoportrait qu'on est de Guillaume de Marcillat, où il s'est représenté. Alors, bon, je passe sur tous ces saints, Saint Bernard, Saint Ambroise, sont donc décrits. Et il y a une représentation, j'ai lu dans un commentaire, le serpent qui avait une connotation sexuelle très marquée. J'ai regardé, mais je n'ai pas encore trouvé ce qui pouvait être très marqué. Voilà. Et la femme qui est représentée, c'est Ève. Ce tableau, je vous en donne quelques détails, il a été restauré, mais il est très intéressant. Alors là, c'est Saint Augustin. Un autre détail de ce tableau, ce sont les vêtements de Saint Augustin et les broderies de la crèche qui sont assez extraordinaires. Alors c'est restauré sans doute, mais c'est d'une grande qualité. Il y a un autre détail, là ce sont les mains de Saint Cyril qui sont représentées en détail. Là encore, c'est très rare, mais je pense que si on avait pu avoir accès à plusieurs tableaux de Marcilla, ça aurait sans doute été très très intéressant. Les techniques de vitrail de Guillaume de Marcilla, là c'est, j'entrerai pas trop dans le détail, par contre, elles nous sont surtout connues par Giorgio Vasari dans le chapitre qu'il consacre à Marcilla. Il met au point plusieurs techniques, il fait construire des fours spéciaux, il a sa propre conception de la grisaille. Alors apparemment, si j'ai bien compris, mais là je parle sous votre contrôle, au départ on assemblait des verres d'une seule couleur qui était cuit et qu'on cernait de plomb. Puis est apparue la grisaille, en fait, c'était une technique de peinture et on grattait dessus pour faire apparaître des détails. Donc là, moi je ne connais pas assez cette technique, mais elle est fortement employée par Marcilla. Alors, il utilise, il se sert de couleurs pour les ombres, il utilise une pierre rouge pour colorer le verre. Et après, il gratte le verre, alors que d'autres vitraillistes à l'époque utilisaient d'autres techniques en ponçant à l'émeri. Voilà les éléments que je peux vous donner sur la technique de vitrail. Je ne rentrerai pas plus en détail, mais la composition est relativement colorée, même si ce sont des vitraux restaurés et ce sont des représentations très très intéressantes. Guillaume de Marcilla meurt en 1529. Il enregistre encore la commande d'autres œuvres pour Pérouse et puis pour Arezzo, mais il est tombé gravement malade et il fait son testament et il meurt à Arezzo. Dans son testament, il instaure comme héritier universel les moines de l'ordre de Camaldule et il déclare vouloir être enterré près d'Ermitage. Et cette donation a permis à Arezzo de conserver dans ses archives l'ensemble des cartons et de l'histoire de Guillaume de Marcilla, ce qui a permis non seulement la restauration des vitraux et aussi des informations techniques sur la fabrication, mais également de permettre la restauration en tant que telle. Et je terminerai, si vous le voulez bien, par quelques contemporains de Guillaume de Marcilla, dans une époque qui a vraiment foisonné d'artistes. On a bien sûr Guillaume de Marcilla, et j'ai mis leur date prévisible de naissance de façon à situer, j'en ai pris que quelques-uns, mais c'est énorme. Alors, il y a Michel-Ange, Raphaël, peintre. Alors Raphaël, moi j'ai toujours un souvenir, il y a quelques années, à Florence, au Palais Pitti, de peinture de Raphaël ronde, qui c'est la Vierge à la chaise, qui est superbe. Et si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment très très chouette. Et on voit que c'est que Raphaël a vraiment inspiré Marcilla. Vasari dit quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui. Quand il ferma les yeux, elle devint aveugle. Alors Botticelli, on ne présente plus avec les tableau qu'il y a à la Galerie des Offices. Bramante, je le cite parce que c'est lui qui était architecte et peintre, qui fit venir Maître Claude et Guillaume de Marcilla à Rome. Titien, un peu avant lui, il y a eu Donatello et Brunelleschi, qui sera présenté dans quelques temps. Le Pérugin qui a été un des maîtres de Raphaël, et comme Marcilla, il avait réalisé un mariage de la Vierge et une adoration des mages. Alors cette adoration des mages qui est au musée de Pérouse est très connue, si vous avez l'occasion de revoir ce tableau. Léonard de Vinci, on est en plein dedans. Et enfin, Piero della Francesca, qui est peinte, qui est un précurseur de la perspective et qui a fait une série de fresques hyper connues à Arezzo. J'arrêterai là, j'espère ne vous avoir pas trop saoulé et je vous remercie.
Mais non,
elle était moine. Oui, les informations ne sont pas précises. Non, on sait que la vie des moines était un petit peu dissolue. D'ailleurs, il est rentré dans les ordres à la suite de Rix. Hein. Je ne sais pas s'il était marié, mais enfin, hein, peut-être une immaculée conception de ce côté-là.
C'est le bleu de la Vierge,
oui,
qui m'interpelle.
Oui.
Il me semble que c'est le bleu de Chartres aussi.
Oui.
Et en fait, il y a certainement eu un lien entre le bleu de Chartres et ce tableau de bleu du vêtement de la Vierge.
Tout à fait. Je pense il y avait l'utilisation forte du cobalt. Voilà. Pour refaire cette couleur de vert. Alors c'est un bleu un peu plus nuancé. Hein. Il a été restauré que le bleu de Chartres, mais effectivement, on est à une époque où il y a un mouvement culturel très très fort, notamment avec la construction des cathédrales. Alors, je ne sais pas si Chartres, ça doit être contemporain.
Hein, c'est bien plus ancien.
C'est même plus ancien. Hein. Tout à fait. Et comme il a été à Bourges, donc, il y avait manifestement des échanges très forts. Ce qui m'a frappé, alors qu'on connaissait plutôt, c'était le départ de Marsilla vers l'Italie à cette époque, alors qu'on connaissait beaucoup, enfin, quand on pense à Léonard de Vinci qui est venu sur la fin de sa vie dans la valise de François Ier, mais c'était effectivement quelque chose qui était étonnant. Alors, ce bleu, alors c'est restauré sans doute,
hein,
mais ça a des similitudes évidentes, je pense, avec les vitraux Chartres. Oui.
Comme tous les maîtres, je suppose qu'il a eu des élèves. Alors, je n'ai peut-être pas tout suivi. Tu en as parlé, non?
Alors, il a eu notamment comme élève Vasari. Hein, Vasari, c'est celui qui a... Alors oui, il a eu des élèves. Alors, je ne l'ai pas relevé là. Il a eu deux élèves qui ont poursuivi un peu son œuvre, notamment à Arezzo. Oui, mais... Hein, alors, je n'ai plus les noms, mais il y a eu deux élèves hein, de... Et Vasari, parce que c'est la première fois qu'on a des informations de Vasari. Ce qui était étonnant, c'est qu'ici, dans la région, on ne connaît pas Guillaume de Marsilla. Enfin, il y a un ami qui m'a dit Guillaume de Marsilla. Monsieur, je connais, c'est un Berrichon. Je suis flatté. Hein, mais c'est vraiment très, 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 très étonnant. Mais il y avait un mouvement culturel important entre la France et l'Italie avec la construction des cathédrales et des vitraux. Il y avait des échanges très importants.
Ce qui est sûr, c'est que les Français étaient en avance pour les techniques du vitrail.
Oui.
Bien sûr, parce que depuis le 12e, ils en faisaient.
Oui, oui, oui.
Que Notre-Dame de Paris.
Tout à fait.
Donc, en fait, et que les Italiens ne sont pas amateurs de vitrail comme ça.
Ils faisaient. On avait vu, je ne sais plus dans quelle église, il y avait des vitraux. Alors, le verre coloré existe depuis l'Antiquité.
Oui.
Hein, on a vu apparaître, et je me demande si ce n'est pas à Ravenne que j'avais vu ça, des vitraux en albâtre. Hein, qui donne une certaine, alors sont une couleur un peu une certaine lumière, hein, c'est le principe. Mais de fait, les vitraux se sont vraiment développés, effectivement, hein, avec la construction des églises et cathédrales en France. Et c'est pour ça que le pape Jules II a fait venir, hein, parce qu'il en avait entendu parler par Bramante, je crois, hein, il a fait venir à Rome, Maître Claude, et Guillaume de Marsilla. Oui, ça c'est sûr.
La cathédrale de Sienne aussi a de l'albâtre sur les fenêtres.
Oui.
D'autres choses à préciser?
Je ne me rappelle plus le nom du tableau, mais il y avait une œuvre peinte de Marsilla qui était très un format très allongé, panoramique.
Oui, c'est l'Annonciation qui est dans un couvent.
Oui, et j'ai trouvé ça très audacieux comme peinture, parce qu'on n'est pas habitué à ce format-là dans la peinture, et je me demandais si ça ne dérivait pas du vitrail, où il est habitué à travailler dans des formes très longues, étroites, oui. Et s'il n'y avait pas justement cette capacité à...
Alors, pour tout vous avouer, je ne l'ai pas vu ce tableau. C'est la seule représentation, la Pénée en a trouvé. On a pensé qu'en fait, ce tableau avait été pris. Qui lui donne une déformation. Alors, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose à vérifier. Donc, c'est au musée de la Verna, c'est un couvent à 20 km d'Arezzo. Et si un jour j'y vais, je pourrais vous apporter une réponse. Je ne sais pas si c'est volontaire, cette forme. Je ne sais pas.
Parce qu'elle n'est pas très courante dans la peinture. C'est
je
ne
sais
ça
pas
que...
parce que. Attends, je voudrais revoir un petit peu. Alors, je ne sais pas. Parce qu'il y a une déformation.
Ah non, ce n'est pas celui-là que je pensais. Ah, c'est le très étroit avec un cadre important, je crois, autour.
C'est celui-là près.
Voilà.
Oui.
Je le trouve très arrangé.
Oui.
Et étroit un peu. Mais bon, ça vient peut-être d'un tout. Je ne sais pas.
Peut-être. Là, c'est... Comme c'est un des deux seuls tableaux qui nous reste de Marsella, je ne sais pas.
C'est extrêmement audacieux, quand même, à l'époque, de représenter. Enfin, je ne sais pas, un sujet religieux avec une femme comme ça, qui fait chair, qui
va détruire la nature. Est-ce qu'il y a des œuvres de Marsella en France?
Oui.
Non. Il n'y en a pas. Dans les musées, il n'y en a pas. Les deux seuls, il y en a un à Détroit, un à Londres. Hein. C'est tout. Il n'y en a aucun en France.
Moi, ce qui me frappe, et on vient sur ce tableau, c'est cette femme dénudée en plein centre de ce tableau. Enfin, là, c'est bon, moi, ma réaction, hein, encadrée par des doctes pères de l'Église qui, eux, prônaient la chasteté, etc. Franchement, là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et ça date du 15e, c'est ça hein,
tout à fait. Hein,
enfin,
tout
bon,
à fait.
Moi, je. Là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, pas qui me choque, mais qui me pose question. Quoi. Oui. Comment un peintre de cette époque-là a représenté cette femme dénudée, quand même, hein, il faut reconnaître, sous l'égide de l'Immaculée Conception, et puis avec tous les pères de l'Église tout autour. Donc,
on n'a jamais représenté Ève.
Non, mais elle n'a pas le sentiment de culpabilité que l'on voit dans autant de tableaux. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on voit Ève représentée dans tous les milliers de fois, il y a toujours une attitude relativement de femme repentante qui a l'air d'avoir fauté, tandis qu'ici, elle est épanouie et heureuse, et en plus la tête du serpent, c'est un homme. Alors c'est vraiment, moi c'est la première fois que je vois ça dans un tableau. La tête du serpent est très.
Un homme très sympathique, c'est
notable. Ce tableau a été restauré à Berlin. Je l'ai utilisé pour les personnages, le commentaire, oui. Hein, parce que moi je ne savais pas identifier. J'ai eu aucune information sur M, mais je sais qu'il est précisé, il est commenté ce tableau sur Internet, sur le site du Bode Museum de Berlin. C'est une restauration, mais il est attribué à Guillaume de Marsilla à plusieurs reprises. Donc là, il n'y a pas de dispute a priori sur son authenticité. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris. Bon, en plus, c'est sympa quand même comme tableau.
Toujours à propos de ce tableau, moi je ne vois pas le rapport avec l'Immaculée Conception d'une part, et d'autre part, vous nous avez montré tout à l'heure des détails extrêmement fouillés de vêtements. Alors, est-ce que vous connaissez la dimension du tableau?
Je l'avais, mais je ne l'ai pas noté. Non, là je ne l'ai pas exactement.
Et sur l'Immaculée Conception, là je. Je ne saisis pas le rapport.
Moi non plus.
J'entends. J'ai introduit cette vue parce que dans les recherches, elle était attribuée à Guillaume de Marsilla. Donc, je n'ai pas fait de rapport particulier. Alors, ça reste une énigme. J'ai pu me tromper. Les personnes qui l'ont authentifié. Il y a plusieurs experts qui l'authentifient comme tel, comme étant Guillaume de Marsilla. Alors, C'est vrai que pour moi, ça reste, et je partage votre point de vue, hein, quelque chose qui est un peu qui détonne par rapport à ce qu'on a vu précédemment.
Moi, je pense que quand on regarde ce tableau, il faut peut-être voir qu'il y a deux parties dans le tableau. Il y a les hommes qui discutent d'un concept, voilà, qui d'ailleurs ne regardent pas la femme nue, hein, vous avez pu remarquer, ils se regardent entre eux, ils ne la regardent pas du tout, et d'autre part, le concept est figuré par la femme, parce que Ève, c'est la femme, femme qui, elle, va être porteuse du péché originel, puisque c'est Ève.
Oui.
Donc, c'est bien le concept de la femme dont on discute. Alors, non, mais en discutant du concept de la femme, on va définir l'Immaculée Conception. Il y a donc dans ce tableau un espace-temps à deux épisodes.
C'est la dispute des pères de l'Église. Hein.
La discussion, ce n'était pas de nombre. Il y a des.
Oui, il peut y avoir aussi une autre interprétation. Le tableau s'intitule « La dispute ». Donc ça concerne la virginité ou non de la mère de Marie.
Oui.
Et donc il y a peut-être ceux qui acceptaient l'idée de cette virginité et ceux qui ne l'étaient pas et qui trouvaient bizarre que quelqu'un puisse avoir un enfant sans avoir fauté. Et Ève est au centre, Ève qui est porteuse de la faute originelle aussi. Hein. Donc la dispute, c'est entre les deux groupes, ceux qui sont pour cette idée de la virginité et ceux qui trouvent ça bizarre. Quoi.
Je pense tout à fait intéressant le fait qu'effectivement il s'agit bien d'une dispute entre théologiens. Vous avez deux groupes qui sont bien manifestement représentés à gauche et puis à droite. Et s'il s'agit de l'Immaculée Conception, la dispute, elle ne s'est pas terminée là, puisque le dogme a été fixé en 1858.
Tout à fait.
Oui. Il n'y a pas grand-chose à voir entre le péché originel et l'Immaculée Conception, parce que le fait de concevoir des enfants dans la sexualité n'est pas considéré comme une faute par l'Église, hein, à condition que ça se passe en mariage. Donc je ne vois pas le rapport entre Adam et Ève et le péché originel et l'Immaculée Conception.
Eh bien, merci Michel.